Pourquoi et depuis quand le loup est-il de retour en France? Quels impacts pour le monde agricole? Qu'en est-il de nos pays voisins, l'Italie et l'Espagne? Quel est l'avenir pour nos estives? Et enfin, quelle forme de cohabitation possible peut-on imaginer entre le loup et nos éleveurs? Nous allons essayer d'y répondre aujourd'hui.
L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est.
Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano.
Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire.
En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Agro J'écoute. Donc nous sommes aujourd'hui au studio Campus FM Toulouse et aujourd'hui nous allons parler de la relation entre le loup et les pratiques d'élevage en France. Donc nous sommes trois étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan. Donc Sarah, comment ça va Sarah?
Ça va, ravie d'être ici.
Ouais, et Amélie?
Bonjour, je vais très bien.
Et moi-même, donc Jean. Donc nous allons apporter des précisions sur l'évolution du loup en France, sa population et sa répartition. Nous évoquerons les principales conséquences de sa présence sur les éleveurs français. Et enfin, quelle forme de cohabitation peut-on imaginer dans le futur? Donc pour mieux comprendre la situation actuelle, je vous propose qu'on commence par se replonger dans un bref historique et dans un état des lieux du loup en France. Est-ce que Amélie, tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet?
Oui, bien sûr. Donc historiquement, le loup a toujours été présent en France. On peut remonter à plusieurs millénaires. Le loup et les humains cohabitaient en France, notamment au Moyen-Âge, où le loup était très présent. Il faisait partie intégrante de l'écosystème français. Et pour avoir une idée, aux environs de fin 1800, il y avait à peu près 20 000 loups en France. Sauf que, comme la population de loups était assez élevée, le loup a commencé à poser problème, notamment en élevage, en s'attaquant sur des troupeaux. Et donc, des moyens ont été mis en place aux alentours du 19e et 20e siècle par l'État français pour diminuer drastiquement la population de loups. Du coup, il a été chassé, empoisonné. Il y a même eu des primes à l'abattage pour diminuer la population de loups. Et la population a été considérée comme éradiquée en 1937 en France.
Ok, et donc quand tu dis éradiquée, tu veux dire en fait qu'il n'y avait plus du tout de loups en France. Et qu'en était-il pour nos pays voisins à cette époque?
Alors oui, sa population a aussi connu une diminution dans les pays voisins, que ce soit en Italie ou en Espagne. Mais pour autant, la population n'a pas été considérée comme éradiquée comme en France. Donc il a toujours été présent chez eux et les éleveurs italiens et espagnols ont su depuis toujours cohabiter avec le loup. Alors qu'en France, depuis plus de 50 ans, les élevages ont évolué sans les contraintes liées au loup.
Ok. Et du coup, comment la problématique du loup et de ses pressions sur les élevages, elles sont réapparues en France?
Alors en fait, la présence du loup est liée à des lois européennes, notamment dans les années 90. Par exemple, la directive Habitat de 92, qui permet au loup d'obtenir le statut d'espèce protégée au niveau européen. Et du coup, ces lois... j'ai peut-être parlé d'espèce protégée, pardon. Le loup a été considéré comme espèce protégée parce que c'est un super prédateur et du coup, ça... présence permet de réguler toute la chaîne alimentaire, donc c'est un acteur clé pour les réseaux trophiques et les écosystèmes. Et en fait, ces lois européennes interdisent de tuer le loup. Et il faut savoir qu'en plus, parallèlement, il y a eu un exode rural dans les années 90 en France. Du coup, la forêt regagne un petit peu de terrain et ça permet aussi que les proies soient plus abondantes. Et du coup, tout ça, ça crée dans l'espace de 50 ans, donc assez rapidement, un contexte favorable à la réapparition du loup en France et en Europe.
Et donc si j'ai bien compris, en fait, c'est grâce à ce statut d'espèce protégée que le loup il a remigré naturellement sur le territoire français. Et donc ce n'est pas une réintroduction, contrairement à certaines idées reçues.
Oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout une réintroduction, c'est-à-dire qu'il a migré depuis l'Italie, naturellement. Il est de retour en 1992, lorsqu'un premier couple a été observé dans le parc national du Mercantour, donc dans les Alpes-Maritimes et à proximité de la frontière italienne.
Ok, donc les premiers loups sont observés, c'est ce que tu viens de dire, donc en 92. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, combien ils sont? Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous donner quelques chiffres tout simplement?
Bien sûr. Alors aujourd'hui, on estime que la population de loups en France compte plus de 1000 à 1100 individus, alors qu'il y en avait seulement 142 en 2010, selon l'OFB, donc c'est l'Office française de biodiversité. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, il y a plus de 1000 nouveaux individus. Alors que le loup reste tout de même majoritairement présent dans les massifs alpins provençaux, mais on peut quand même le retrouver un peu partout en France. Par exemple, il a été observé en Lozère, en Aveyron ou même jusqu'en Normandie. Et un autre élément important, c'est que ces 1000 loups à peu près causent autour de 3500 attaques qui ont été reconnues, certifiées par l'ADREAL, donc c'est la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et de la Forêt, et les loups s'attaquent principalement aux brebis et aux chèvres.
Quand tu nous dis 3500 attaques, donc ça correspond à 3500 bêtes tuées chaque année ?
Alors c'est un peu plus complexe que ça. Par exemple, si on se base sur l'année 2021, il y a exactement 3359 attaques de loups qui ont été recensées, mais on en dénombre plus de 10 000 victimes sur les troupeaux, donc majoritairement des brebis et aussi des chèvres, comme j'ai dit, pardon. Donc ces chiffres, ce sont des vrais chiffres par l'ADREAL. Chaque année, il y a des comptages. Mais en fait, le loup, s'il fait une attaque, il peut y avoir bien plus d'animaux blessés. Donc pour une attaque, il y a des animaux blessés ou morts. Et du coup, les pertes peuvent être beaucoup plus grandes que les juste 10 000 victimes. Parce qu'il y a notamment des pertes indirectes après l'attaque. Mais ça, on en détaillera plus tard.
Ok, très bien. Donc si je comprends bien, donc, une attaque peut faire plusieurs victimes. En tout cas, merci Amélie pour cet état des lieux. Maintenant, je propose qu'on passe plutôt sur les conséquences environnementales dues à la réapparition du loup sur nos territoires. Est-ce que Sarah, tu pourrais nous en dire un petit peu plus à ce sujet ?
Oui, bien sûr. Avant de commencer, je voudrais rappeler que les estives, qui sont les pâturages d'été en montagne, elles sont au minimum deux fois plus vulnérables que les parcours qui sont les prairies à proximité des exploitations, notamment parce que les parcours permettent de rentrer les brebis dans les étables durant la nuit, donc les loups ne peuvent pas attaquer durant cette période. C'est pourquoi durant toute cette discussion, on va principalement parler des estives et des estives dans les Alpes, parce que c'est là où il y a le nombre de loups le plus élevé. Donc les bergers ont dû apprendre à mettre en place des moyens de protection pour lutter contre les attaques du loup, parce que les moutons représentent en moyenne 20% du régime alimentaire du loup. Pourtant, ces moyens de protection, ils ont des conséquences environnementales assez importantes. Un des moyens de protection qui est mis en place, c'est le regroupement des troupeaux la nuit au sein de parcs clôturés et électrifiés. Donc aujourd'hui, les troupeaux la nuit vont être regroupés au sein d'un espace restreint, chaque soir au même endroit. Et donc les déjections, les fesses et les urines des brebis vont être aussi concentrées dans un espace restreint chaque soir au même endroit. Et même si le rassemblement des brebis, c'est une mesure qui est préconisée, elle va avoir un impact écologique assez important puisqu'il y aura de la pollution des eaux de surface et des eaux profondes à cause de la forte concentration en nitrate des déjections. Donc je rappelle, le nitrate, c'est une forme soluble de l'azote, très soluble dans l'eau. Une autre conséquence, c'est qu'il y aura aussi un impact paysager parce que le piétinement des brebis va aussi empêcher l'herbe de pousser au sein des parquages nocturnes. Donc dit comme ça, c'est peut-être pas important, mais il faut s'imaginer qu'il peut y avoir 800 brebis rassemblées au même endroit. Donc ça va couvrir un espace assez important.
Et donc avant, on remarquait pas ces conséquences-là. Les brebis, elles n'étaient pas parquées, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'était le principe de la couchade libre. Donc chaque soir, plus ou moins, elles allaient choisir des endroits. Donc elles changeaient chaque soir d'endroit et spontanément, elles se tournaient vers des sites plutôt drainants, en crête de montagne ou des bosquets. Donc c'était éloigné des zones humides parce que c'était plus confortable pour elles. Et donc il n'y avait pas de pollution des eaux. Et aussi, c'était des endroits aussi avec des sols plus superficiels, c'est-à-dire peu profonds. Donc il y avait moins de possibilités d'accumulation de la matière organique, des déjections. Donc le risque environnemental était moindre. Et parallèlement, les nuits, elles étaient plus longues aussi. C'est-à-dire que les brebis, elles pâturaient vraiment de l'aube à la tombée du jour. Parce que là, maintenant, comme il faut les parquer, il y a le temps que les bergers aillent les chercher, les ramènent au parc de nuit. Donc les nuits sont aussi plus longues. Et donc la concentration à déjection est plus élevée. Donc il y a plus de pollution. Et d'un autre côté, il y a aussi le développement d'espèces nitrophiles. C'est-à-dire des espèces qui aiment les sols riches en azote, tels que le pissenlit ou l'oseille, qui vont se développer au détriment d'autres espèces.
Ok, et donc ces espèces nitrophiles, donc qui aiment l'azote, est-ce que c'est vraiment grave qu'elles se développent davantage ?
On va dire que c'est assez embêtant parce qu'elles se développent au détriment d'une flore qui était diversifiée et surtout caractéristique des estives. Donc c'est une flore qui s'était formée sous l'action de l'homme durant plusieurs siècles. Il y a toute une notion d'écosystème qui est liée. Donc s'il y a une perte de biodiversité floristique, il y aura aussi une perte de diversité faunistique parce qu'il y a toute une faune qui dépend de cette flore caractéristique des prairies. Une chose dont je n'ai pas parlé aussi, c'est le trajet répété des animaux pour rejoindre les parcs de nuit. Il va y avoir de la dégradation des sols parce qu'à force de passage, l'herbe ne poussera plus, le sol va se tasser, l'herbe va être arrachée. Et donc, à cause du piétinement, l'herbe ne pourra plus pousser. Et ça va induire de l'érosion. C'est-à-dire que le sol il va se dégrader sous l'action de la pluie. Par exemple, il y a des particules de sol qui vont être arrachées et déplacées, induisant une perte de terre. Et petit à petit, il y aura de plus en plus d'érosion.
Donc si j'ai bien compris, donc, tous ces changements environnementaux, ils sont directement imputables à la présence du loup, ou plutôt aux adaptations et aux changements qui ont été mis en place par les éleveurs pour faire face à la présence du loup. Et donc tu nous dis qu'il y a une surfréquentation de certaines zones avec un parquage forcé. J'ai entendu dire aussi que du coup, il y avait certains espaces qui étaient totalement délaissés.
Oui, c'est exactement ça. Donc comme tu viens de le dire, il y a une surfréquentation de certaines zones, donc les parquages forcés. Il y a certains secteurs qui vont être délaissés parce que, par exemple, ils vont être trop éloignés par rapport au parc de nuit et donc les bergers n'auront pas le temps de faire l'aller-retour sur la journée. Donc ça, c'est des zones qui ne seront plus pâturées par les brebis. Et aujourd'hui, la perte, elle n'est pas négligeable puisque la France a déjà perdu 4% de ses zones de pâturage depuis la réintroduction du loup, enfin, qui n'a pas été introduit, mais le retour du loup, et 23% d'exploitation de montagne, selon le magazine Campagne et Environnement. Même si toutes les pertes elles ne peuvent pas être attribuées au loup, on peut deviner la pression qu'exerce le loup sur ses exploitations et sur ses zones de pâturage. Et aussi, on peut observer une réduction de la période de pâturage du troupeau, parce que pour limiter le nombre d'attaques, certains bergers vont descendre plus tôt des estives. Par exemple, au lieu de descendre en septembre, ils vont descendre en août. Et donc, certains espaces ne seront plus pâturés, ils vont être délaissés.
Et je me permets d'intervenir. Moi aussi, j'ai une info notamment sur le fait des estives soient délaissées. C'est un éleveur de brebis et de chèvres dans les Alpes de Haute-Provence qui avait dit que si la menace s'amplifiait, il allait arrêter d'exploiter les parcours. Donc, il y a bien là aussi un terme de... Enfin, les pâtures sont mises de côté, en fait.
Ok. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe quand les prairies sont abandonnées?
Bah, le risque, c'est la fermeture des milieux. Donc aujourd'hui, on dit que les prairies sont des milieux ouverts parce qu'il y a une absence d'espèces ligneuses. Et si les prairies ne sont plus pâturées, elles vont se refermer, c'est-à-dire que petit à petit, elles vont laisser place à de la forêt. Pourtant, les prairies, c'est vraiment des milieux qui sont essentiels pour certains animaux, des grands rapaces comme l'aigle royal, mais aussi des petits mammifères, le lièvre variable. Et donc, ce sont de nombreuses espèces végétales et animales qui sont menacées par la fermeture des milieux parce que ça va tout simplement réduire leur habitat. Et parce qu'elles sont vraiment dépendantes de ces prairies de haute montagne. Donc c'est un patrimoine paysager aussi qui est menacé par l'évolution des paysages. C'est pour ça qu'on dit que les paysans sont les gardiens des paysages, c'est qu'ils ont vraiment façonné les estives qu'on connaît aujourd'hui. Et pourtant, le pastoralisme, c'est une mesure qui est encouragée par... C'est une pratique qui est encouragée par des mesures agri-environnementales de type Natura 2000 pour permettre de reconquérir des espaces embroussaillés, pauvres en biodiversité et menacés par des incendies.
Ok, donc très bien, là on vient d'aborder un petit peu toutes les conséquences négatives sur les écosystèmes dues à la présence du loup. Bon, bien sûr, il existe aussi le loup, un rôle important dans la biodiversité et dans l'équilibre des milieux, je pense qu'il faut quand même le mentionner, notamment un rôle essentiel dans la régulation de certaines populations de cervidés ou d'autres espèces. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à ce sujet, Sarah? Par exemple, quelle est la proportion finalement d'animaux d'élevage dans le régime alimentaire du loup, encore en comparaison avec les animaux sauvages qui rentrent dans son alimentation?
Oui, donc comme je l'ai dit précédemment, les brebis, c'est environ 20% du régime alimentaire du loup, et les 80% restants, ça va être des espèces sauvages, telles que des ongulés, des cerfs, des chevreuils, mais il peut aussi chasser des proies plus petites, des lièvres, des marmottes, par exemple. Et donc, comme l'a un peu évoqué Amélie précédemment, le loup, il joue vraiment un rôle dans l'équilibre des écosystèmes en France, parce que c'est un super prédateur, il est en haut de la chaîne alimentaire, il rend des services écosystémiques importants en régulant naturellement les populations de cervidés, par exemple les cerfs, les chevreuils, qui sont jusqu'à présent jugés parfois invasives. Parce qu'en fait, ces populations, les sangliers, ils n'avaient plus de super prédateurs naturels, c'était vraiment régulé que par les chasseurs. Et du coup, la surreprésentation de cervidés, ça a empêché par exemple la régénération des jeunes arbres qui étaient broutés dès leur naissance. Et pourtant, on sait que les forêts, c'est très important pour le stockage du carbone. D'un autre côté, le loup aussi, il est opportuniste, donc il va se diriger spontanément vers des proies faciles, comme des proies qui sont malades ou faibles. Et donc ça permet d'améliorer la santé des ongulés, des populations, parce que les proies les plus faibles disparaissent, il ne reste que les individus les plus forts. Et les maladies sont aussi, pas éradiquées, mais diminuées, parce que le loup va manger les proies malades, et donc elles ne transmettront pas leur maladie d'un individu à l'autre.
Ok, ben, très bien. Merci Sarah en tout cas pour ce premier éclairage du coup sur les conséquences environnementales de la présence du loup. J'espère que c'est plus clair pour tout le monde. En tout cas, restez avec nous car maintenant on va aborder les pressions psychologiques que subissent les éleveurs depuis le retour du loup dans les estives. Et justement pour introduire le sujet, donc on vous propose d'écouter l'extrait suivant. C'est un extrait tiré d'une vidéo de Brut, de Cyrus North et de Tanguy Toupette et du coup qui accompagne tous les deux un berger dans les Alpes.
Ce qui nous fait remarquer qu'il y a le loup qui est présent souvent, c'est que le troupeau va s'affoler d'un coup, va partir dans tous les sens. Là où le troupeau, il est, tu vois, tous ensemble,
il y a une cohésion.
Il y a une cohésion. Et si le troupeau se met à attaquer, on va avoir soit un loup qui part à droite, soit un loup qui part à gauche. Les loups sont malins, quand ils sont en meute, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils attirent les chiens d'un côté pour laisser les deux autres attaquer de l'autre. Ça laisse un trou ouvert.
Et ils font quoi? Ils les consomment sur place ou ils vont les traîner et les emmener ailleurs?
Pareil, il n'y a pas de règle. Soit c'est consommé sur place, soit c'est juste égorgé.
Parce qu'il faut, tu vois, pour la traîner, la brebis, là, quand même, c'est quoi ces animaux? Ça pèse quoi? 50, 60 kilos?
Ça peut peser de 45 à 75 kilos, mais on a déjà vu des loups traîner leur proie sur 7 kilomètres.
7 kilomètres?
Très bien, donc Amélie, est-ce que pour revenir justement sur ce petit extrait, tu peux nous en dire un petit peu plus vis-à-vis du vécu des bergers par rapport aux attaques du loup?
Oui, bien sûr. Alors, comme on l'a entendu dans l'audio, les éleveurs sont touchés par ces attaques de loups. Ils se retrouvent dans des positions très difficiles à gérer psychologiquement. D'abord parce qu'ils sont les premiers confrontés à des scènes très violentes, donc souvent des scènes choquantes, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont la surprise de retrouver certaines de leurs bêtes mortes ou ensanglantées. Donc, ils peuvent ressentir une sensation de stress, de tristesse ou de colère. Mais aussi parce qu'après l'attaque, le reste du troupeau qui est vivant se retrouve complètement affolé et stressé par l'attaque de loup. Et du coup, il va y avoir une pagaille générale du troupeau et l'agriculteur, enfin l'éleveur, doit gérer le reste du troupeau qui est complètement, qui répond plus bien aux indications du berger ou de l'éleveur. D'autant plus qu'il peut y avoir des bêtes tuées, mais il y a aussi celles qui restent blessées, on va dire, fortement plus ou moins, mais qui sont encore vivantes après l'attaque du loup. Et du coup, là aussi, il faut gérer cette situation pour les éleveurs. Et donc, soit pour les bêtes qui sont blessées, mais récupérables, on va dire. Donc, l'éleveur peut faire intervenir le vétérinaire, apporter des soins pour essayer de soigner la bête. Soit pour les bêtes qui sont dans des états, on va dire, très mauvais. Alors là, pour abréger les souffrances, l'éleveur peut se retrouver dans une posture délicate pour mettre à mort l'animal, pour essayer qu'on en finisse, quoi. Donc, c'est un passage, en fait, très difficile psychologiquement pour les éleveurs et auquel ils sont contraints.
Ok, donc en effet, on imagine à quel point bon, c'est délicat. Est-ce que les agriculteurs ils sont seuls à gérer cette situation? Est-ce qu'ils sont accompagnés?
Alors effectivement, les agriculteurs peuvent être seuls à gérer cette situation juste en fait quand ils vont constater les dégâts, on va dire. Mais il faut savoir qu'il y a des organismes qui ont été mis en place par l'État français pour les accompagner. Donc comment ça se passe? Quand les éleveurs ils voient l'attaque, ils peuvent appeler, enfin ils doivent appeler la DDT, donc c'est la Direction départementale des territoires, qui, elle, va appeler une personne certifiée, souvent une personne de l'OFB, donc je le redis, de l'Office français de biodiversité, qui va venir sur les lieux pour certifier l'attaque de loup. Cette intervention, elle doit avoir lieu le plus vite possible, donc entre 24 heures et 72 heures après l'attaque, tout simplement pour éviter que les charognards ou les autres prédateurs viennent manger les brebis. Et du coup, après le constat, les agents de l'OFB communiquent le rendu au service de l'État, et si l'attaque de loup est avérée, les agriculteurs sont dédommagés. Donc le dédommagement moyen pour une bête morte, il est autour de 140 euros pour une bête morte. Mais il peut être variable. Donc pour un agneau mort, ça peut aller de 95 euros. Mais par exemple, pour une brebis à haut potentiel laitière, l'agriculteur peut être dédommagé jusqu'à 565 euros. Et cette somme, il peut la recevoir un à deux mois après l'attaque.
D'accord. Donc des délais relativement, enfin, plus ou moins importants, des indemnités aussi très variables en fonction de la bête. Est-ce que ça paraît suffisant pour les éleveurs et en quoi en fait ça va venir engendrer un travail supplémentaire pour eux?
Alors, suffisant pour les éleveurs, en fait ça dépend tout simplement de la santé financière des exploitations. Il y en a qui peuvent attendre deux mois avant de toucher une somme et il y en a pour d'autres où c'est un peu plus compliqué malheureusement. Pour le travail supplémentaire, certains agriculteurs ont fait le choix de changer leur méthode de travail. Par exemple, il y en a qui ne sortent plus leurs bêtes dans les pâturages. Donc là, ils ont dû réadapter l'alimentation du troupeau et toute la gestion du troupeau. Et il y en a d'autres qui continuent de sortir leurs bêtes dans les pâturages, mais soit ils peuvent les sortir seulement à la journée et les rentrer chaque soir, si leur ferme le permet. Soit quand c'est dans les estives, notamment les bergers, à ce moment-là, ils les sortent toujours, mais ils restent au troupeau pour garder le troupeau. Donc ça implique un temps de surveillance bien plus élevé dans leur façon de travailler, on va dire. Et il y en a d'autres qui se sont munis de chiens de protection, donc c'est les gros chiens blancs, les patous, qui gardent les troupeaux et qui normalement affrontent le loup quand il y en a besoin. Il y a des agriculteurs qui ont investi dans des clôtures électriques aussi. Donc en fait, quand on combine toutes ces méthodes de lutte, L'agriculteur, ça lui implique un temps de travail augmenté. Et déjà que les agriculteurs, ils n'ont pas beaucoup de temps libre, notamment pour consacrer à leur famille. Là, in fine, ça fait beaucoup moins de temps qu'ils peuvent consacrer à leur vie personnelle.
Ok. Mais malgré tout, ces mesures, est-ce qu'elles sont efficaces ? Est-ce qu'elles permettent aux agriculteurs de mieux vivre leur quotidien ?
Alors, en réalité, certains oui, certains non. C'est une question un peu complexe. Ce que je peux dire, c'est que les éleveurs, ils ont un stress constant, car ils ont une sensation de ne pas maîtriser la situation. C'est-à-dire que même s'ils se sont adaptés dans leur méthode de travail, ils ne peuvent pas savoir si l'attaque de loup va avoir lieu ou pas et quand. Donc, ça peut être un état d'esprit assez instable. J'avais un écho d'un agriculteur qui se disait qu'il se sentait observé constamment, que le loup était tout près et qu'il attendait juste le moment où l'éleveur n'était pas avec le troupeau pour attaquer, par exemple.
Okay.
Et en plus, il y a une grande variabilité dans l'intensité et la fréquence des attaques. Par exemple, il peut y avoir une ou deux attaques en l'espace d'une dizaine ou une quinzaine de jours, comme il peut y avoir aucune attaque pendant plusieurs mois. Donc, même si certains agriculteurs ont changé leur méthode de travail, parfois, ils se retrouvent quand même impuissants face à cette attaque qui est aléatoire. Donc, le métier d'éleveur, on va dire qu'il est déjà compliqué et avec beaucoup de travail et une faible rémunération. Donc en fait, c'est ce stress du loup qui vient s'ajouter à la pression que les agriculteurs subissent déjà.
Bah oui, justement, pour faire écho à ce que tu viens de nous dire, je vous propose d'écouter ce court témoignage d'un berger installé dans les Alpes. C'est le même que tout à l'heure. Donc extrait de la vidéo brute mentionnée plus tôt avec Tanguy Toupette et Cyrus Nance.
En fait, on le déteste pas, mais c'est juste que, tu vois, à la fin de la saison, t'en peux plus, quoi. T'es crevé.
Il te harcèle, en fait. J'ai l'impression que c'est de la, tu sais, du harcèlement.
C'est du harcèlement, en fait. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était sur ton estive avec un fusil, avec une lunette, tu le voyais jamais. Et tu sais qu'il pouvait tirer au moindre moment et te blesser. Ben là, il blesse tes brebis, ton troupeau, il te blesse toi, parce que moi, l'an passé, à cause de la fatigue, ben, je suis tombé, je me suis cassé le coude, en fait.
Okay.
Je cherchais mes bêtes partout, j'avais les larmes aux yeux parce que j'ai perdu mes chèvres, je sais pas où elles étaient. Et puis, j'en pouvais plus, quoi. C'est juste que. T'as beau avoir de l'aide, des éleveurs et tout ça, à un moment, t'as les nerfs qui craquent, t'es pas un surhomme, quoi. Tu peux pas toute la journée surveiller tes bêtes. Et puis, toi, notre boulot, c'est de faire manger nos bêtes et entretenir des espaces. Et on t'empêche de le faire. Et en plus, on te dit que t'es un mauvais berger parce que t'as qu'à garder tes brebis. Mais moi, aux brebis, j'y suis 15 heures par jour. Il y a personne qui neige, qui vente sous la pluie, j'y suis.
Et on voit donc que les éleveurs, oui, ils sont fatigués et qu'il y a un gros stress engendré et du travail en plus. Amélie, tu nous parlais un peu des mesures qui étaient mises en place. Sont-elles suffisantes ou pas ? Bon, ça, c'est une question qui reste un peu en suspens. Est-ce que Sarah, tu peux nous parler maintenant des conséquences économiques que ça a pour ces éleveurs, pardon ?
Oui, donc on vient de voir qu'il y avait une pression psychologique pour les éleveurs, mais il y a aussi une pression financière, parce que les moyens de protection, ils sont coûteux à mettre en place. Même s'il y a des aides de l'État qui sont reversées aux éleveurs, c'est pas la totalité qui est prise en charge, et on peut toujours se demander si c'est suffisant ou pas. Et ça va dépendre de la santé financière des exploitations. Est-ce qu'elles ont la capacité d'investir pour lutter contre le loup, ou si financièrement elles sont trop justes. Donc pour rappel, comme l'a déjà dit Amélie, les frais supplémentaires, c'est l'achat de chiens de garde, les patous, il y a la mise en place de clôtures électrifiées, il y a l'emploi de bergers pour surveiller les troupeaux. Donc tout ça, c'est des frais supplémentaires. Et donc toutes les exploitations ne sont pas en mesure de les mettre en place parce qu'elles n'ont pas la trésorerie suffisante.
Ouais, il est important de notifier que d'une manière globale, je vous rappelle, les revenus agricoles sont de plus en plus faibles, surtout dans les territoires d'élevage, et que 18% des agriculteurs vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, donc fixé à 13 224 euros par an et par personne. Donc ça, c'est des chiffres qui viennent de l'INSEE. Et donc la présence du loup, finalement, elle vient fragiliser une filière qui est déjà très en difficulté.
Oui, c'est exactement ça, c'est important de le rappeler. Et aussi, il faut mettre en avant qu'il ne faut pas résumer les attaques de loups à l'équation brebis tuées, brebis indemnisées. Enfin, la compensation financière est plus complexe que ça, l'impact financier est plus complexe. Et c'est souvent difficilement quantifiable. Parce que par exemple, même s'il y a du parquage nocturne, certains loups attaquent en journée, donc il y a des attaques aussi en journée. Et donc tout ça, les moyens de protection, ils sont coûteux à mettre en place et ce n'est pas toujours suffisant. Et en plus, les moyens de protection tels que les patous, ils peuvent rentrer en conflit avec d'autres usagers des montagnes, tels que les promeneurs, les touristes, parce que les patous peuvent se monter agressifs si un humain s'approche du troupeau. Donc premièrement, le parquage nocturne, il n'empêche pas toutes les attaques. Et par contre, il va empêcher le pâturage à la tombée de la nuit et à l'aube, c'est-à-dire selon les bergers, les heures auxquelles les brebis mangent le mieux. Donc ça va avoir un impact sur l'état corporel des brebis, qui vont être plus maigres, moins grasses. Et donc, ça joue sur la santé des brebis, mais aussi sur la santé financière des exploitations qui va avoir des animaux avec un moins bon état corporel. Précédemment, on a déjà parlé que certains bergers avançaient la date de descente des troupeaux, qui redescendaient plutôt des estives, donc ça a des conséquences environnementales, mais ça a aussi des conséquences économiques, parce qu'une fois en étable, les brebis devront être alimentées avec de l'aliment qui est plus coûteux que le pâturage des estives, donc tout ça, ça fait des surcoûts alimentaires considérables. Et je vous propose d'écouter un éleveur du Béarn qui en témoigne. L'extrait date de 2019 et il provient de France 3 Nouvelle-Aquitaine.
Le troupeau fait déjà sa transhumance de retour. Nous sommes le 29 juillet et André Arrête-Grosse a décidé de redescendre ses bêtes après un nouveau carnage. Loup, loup hybride, chien errant, aucune certitude sur l'animal, mais entre dimanche et lundi, 10 brebis ont été tuées, toutes attaquées à la gorge.
Une grosse trace de 3 cm, certaines la canne pétée là. Mais tout au cou, aux cuisses du tout, c'est rien qu'à la gorge. 2 mois de plus, je pouvais faire. J'en avais pas mis beaucoup, que j'en ai. J'en ai 230 à la maison encore. Je suis obligé de ramener ça. C'est tous les ans la même comédie. Alors. C'est fini la montagne maintenant, il ne faut pas vouloir insister. On se disait peut-être cette année ça va s'arrêter, mais c'est fini.
Le problème en France, c'est que le loup il tue 2 fois plus en Italie ou en Espagne, selon le sénateur Cyril Pelleva de Haute-Savoie. En Italie, la cohabitation elle fonctionne car les parcs naturels, premièrement, ils financent des moyens de protection des élevages. Et comme on l'a déjà dit aussi, les élevages se sont adaptés à la présence du loup. Et aussi dans ces pays, l'Italie et l'Espagne, le loup il reste quand même assez braconné. Il n'y a pas de quota de prélèvement, par exemple, à respecter. Donc dans ces pays, le loup craint davantage l'homme et il va davantage donc, se nourrir d'animaux sauvages plutôt que les bêtes domestiques telles que les moutons. Il se tient plus loin des élevages.
Ok, donc pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Sarah, donc, si je comprends bien, c'est la surprotection du loup en fait. Qui fait que le loup ne craint plus l'homme et que du coup il vient partager un même territoire et donc s'en prend forcément au bétail et aux bêtes d'élevage. Est-ce que Sarah, tu pourrais nous parler des autres conséquences indirectes qu'il y a sur les troupeaux voilà, en quelques mots.
Oui, donc comme on l'a dit, les conséquences directes, c'est vraiment les attaques, les brebis tuées et blessées. Et il y a aussi des conséquences indirectes, comme une forte perturbation des troupeaux, notamment lorsqu'ils sont en lactation ou en gestation. Parce que le stress de l'attaque du loup, ça va induire des avortements, de la perte de poids, des baisses de lactation, baisses de fertilité. Et tout ça, c'est indemnisé sur base forfaitaire, mais on peut toujours se demander est-ce que c'est suffisant et est-ce que ça permet vraiment de compenser la perte que le loup a engendrée. Il y a aussi des conséquences qui ne peuvent pas vraiment être prises en place ou qui pour le moment ne sont pas pris en compte, pardon, comme la perte de confiance du troupeau, qui a subi un stress trop intense, qui va mémoriser le lieu de l'attaque, et qui va refuser d'y aller pendant, par exemple, 2 à 3 ans. Enfin, c'est, selon les éleveurs, la mémoire du lieu de l'attaque, elle dure 2 à 3 ans. Et donc, c'est impossible pour l'éleveur de reconduire ce troupeau à cet endroit, parce qu'il va refuser de s'y arrêter. Et même si la ressource herbagère, elle est abondante et de très bonne qualité, le lieu ne pourra pas être pâturé durant ces 2 à 3 années.
Ok. Et finalement, ben, quel est l'avenir pour les estives et les éleveurs et les loups?
Mais c'est vrai que cet avenir, il pose question, notamment parce qu'il y a un nombre d'incidents constaté chaque année qui est assez élevé, je le rappelle, c'est plus de 10 000 bêtes tuées par an. Et il y a une question aussi qui est assez importante, enfin quelque chose qui pose question, c'est la méconnaissance du loup dans le système pastoral français, contrairement aux Italiens et Espagnols, qui sont des pays qui n'ont jamais connu l'éradication du loup dans, dans leur système, donc les systèmes s'y sont adaptés. Et aujourd'hui, on a aussi la création de 2 camps opposés, les pro-loups et les anti-loups, qui ne reflètent en aucun cas la réalité. Parce que les éleveurs, au final, ce qu'ils veulent, ce n'est pas qu'il n'y ait plus de loups, mais ils veulent ne plus avoir de brebis tuées. Ils réclament des moyens de protection suffisamment efficaces pour pouvoir lutter contre les attaques. Cependant, ces deux camps opposés, ça empêche le dialogue. Et du coup, on observe un clivage entre les pro-loups et les anti-loups, d'autant plus que c'est un sujet qui a été monté en épingle par les médias et qui ne favorise donc pas le dialogue.
Ouais, mais justement, pour montrer un petit peu que dans l'esprit des éleveurs, c'est un petit peu plus nuancé que ça, du coup, on propose d'écouter à nouveau un extrait de la vidéo de Brut de Cyrus North et les Tanguy Toupettes, donc qui accompagne ce berger, Joseph, qui est dans les Alpes, et ça va nous permettre de comprendre que dans le quotidien des bergers, la problématique du loup, elle est certes elle est présente, mais que c'est à... Enfin, c'est pas... Il y a une... Pardon, je vais me reprendre.
Leurs propos sont plus nuancés qu'on le croit.
Exactement, voilà. Merci Sarah pour ton aide.
On a des environnementalistes qui ne veulent absolument pas qu'on puce les loups ou les meutes pour savoir où elles sont, parce qu'elles pensent que grâce au puçage, on va aller les tuer. Tu vois, enfin, je veux dire, il y a une espèce de paranoïa schizophrène où tout le monde se méfie de tout le monde et du coup, il se passe plus rien et tout le monde est, personne n'est content.
Il y a eu une période où on a cohabité avec le loup, le berger et le loup.
La cohabitation, elle ne peut pas exister.
Voilà.
Il n'y a pas de cohabitation possible, il y a une coexistence possible.
Okay.
Mais pour qu'il y ait coexistence, il faut qu'il y ait réciprocité. On est deux prédateurs en haut de la chaîne alimentaire et dans n'importe quel milieu. Quand il y a deux prédateurs sur un même territoire, l'un et l'autre savent que s'ils vont sur le territoire de l'autre, il y a un risque létal.
Ouais, t'as une concurrence.
Ouais, donc on voit que bah, pour le berger, il n'est pas forcément contre le loup. En définitive, il serait bon de créer un environnement neutre et propice au dialogue pour établir de manière collective des objectifs communs et permettre aux uns ou aux autres de mieux se comprendre. On arrive à la fin de cette émission. Donc Sarah, Amélie, merci en tout cas pour toutes ces explications. C'était très clair. Enfin, j'espère que ça l'était aussi pour nos auditeurs. Donc en France, on voit que la question du loup et de la possibilité de sa survie, elle est presque garantie car il bénéficie d'une protection européenne. La survie des estives et des éleveurs reste quant à elle un petit peu plus incertaine. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On tenait vraiment à remercier du coup les partenaires de ce projet. Donc forcément, bah, l'école d'ingénieurs de Purpan, la région Occitanie, l'université de Toulouse, l'agence de l'eau et un grand merci surtout à Campus FM de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'était notre premier podcast. Je pense qu'on est très content de l'avoir fait. Et n'hésitez pas surtout d'aller aussi d'aller retrouver du coup les autres podcasts réalisés par nos camarades. Sur Agro J'écoute.